Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 16h à Paris et à Berlin, 15h en temps universel et 10h à Washington. Le journal vous est présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, le risque de guerre commerciale déclenchée par les États-Unis. Donald Trump s'entretient aujourd'hui avec les dirigeants du Canada et du Mexique au menu les droits de douane qu'il a imposés à ces deux pays. En France, l'heure de vérité pour François Bayrou. C'est aujourd'hui que le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur le vote du budget de l'État et sur celui du budget de la Sécurité sociale. À gauche, le Parti socialiste a tranché. Il a décidé de ne pas voter la censure. En Allemagne, à 20 jours des élections législatives, les démocrates chrétiens sont donnés favoris. Ils sont actuellement réunis en congrès à Berlin. Le parti conservateur est divisé sur la conduite à tenir à l'égard de l'extrême droite. Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a donc signé les décrets imposant des droits de douane supplémentaires de 25% au Canada et au Mexique, les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. La surtaxe est de 10% sur tous les produits importés de Chine. Ottawa, Mexico et Pékin étudient maintenant des mesures de rétorsion. On assiste aux prémices d'une guerre commerciale dont les conséquences vont bien au-delà des pays concernés. Nathanaël Vitran.
Il faut toujours regarder la réaction des marchés avec prudence. Mais à défaut d'autre chose, c'est un bon indicateur de l'humeur du moment des investisseurs. Et autant dire qu'à l'ouverture ce lundi, les investisseurs étaient d'humeur morose. Les bourses reculent un peu partout en Europe après avoir déjà fini en baisse en Asie. Les indices de référence à Tokyo et Séoul ont reculé de plus de 2% et c'est beaucoup. Les constructeurs automobiles européens, Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo, Stellantis, Renault, sont en première ligne puisque leur chaîne d'approvisionnement sont particulièrement mondialisés avec des pièces et des composants qui traversent parfois plusieurs fois les frontières avant de finir sur la chaîne d'assemblage finale. Ce qui en fait l'un des secteurs les plus exposés à une guerre commerciale. Si la nature a horreur du vide, les marchés, eux, exècrent l'incertitude. Leur réaction épidermique prouve à quel point la période qui s'ouvre est confuse. Donald Trump a promis que les Européens étaient les prochains sur sa liste, mais on ne sait pas quand, ni dans quelle proportion, ni même quelle sera la réponse européenne. On ne sait pas, et les marchés n'aiment pas ça, ça au moins c'était prévisible.
Je le disais pour commencer, Donald Trump s'entretient actuellement avec les dirigeants du Canada et du Mexique. De leur côté, les Européens sont réunis à Bruxelles. Les dirigeants des 27 préviennent que la menace du président américain d'étendre des droits de douane à l'UE risque de déclencher une guerre commerciale qui nuirait aux consommateurs des deux côtés de l'Atlantique. En Allemagne, les conservateurs de la CDU sont réunis en congrès à Berlin aujourd'hui. Les délégués doivent adopter un programme de 15 mesures qui seront mises en place rapidement en cas de victoire aux législatives du 23 février. Conduite par Friedrich Merz, la CDU est donnée favori par les sondages. Mais le tollé des derniers jours autour de son rapprochement avec l'Alternative pour l'Allemagne, parti d'extrême droite, change un peu la donne. La semaine dernière au Bundestag, Friedrich Merz a accepté de faire passer des textes contre l'immigration en acceptant des voix de l'extrême droite. Il a le soutien du député régional de Thuringe, Jonas Urbach. On l'écoute.
Les discussions de la semaine dernière sont très présentes ici. Il n'y a aucune autre possibilité de convaincre les électeurs de déposer leur voix pour la CDU. S'il n'y a pas des réponses aux ces questions urgentes, après les attentats à Aschaffenburg, Magdebourg, il faut réagir. Le plan de Friedrich Merz est une voix. On a des sondages qui disent que même les adhérents de SPD ou aussi des Verts sont pour ces idées. Et ça nous montre que c'est le chemin correct pour la situation maintenant. C'est clair que c'est une discussion très difficile. Nous ne voulons pas avoir une coalition avec la AfD. Jamais. La CDU est à côté des gens qui veulent un changement de la régime de frontières. Pour cela, je pense qu'on est de la bonne voie pour ces élections.
Le député de Thuringe, Jonas Urbach, au micro de Pascal Thibault, notre correspondant à Berlin. Au Proche-Orient, tandis qu'une trêve est en vigueur dans la bande de Gaza, les violences redoublent en Cisjordanie occupée. De sources palestiniennes, quelques 70 personnes ont été tuées par Israël depuis le début de l'année. Nombreuses victimes, en particulier à Jénine, dans le nord du territoire, où une vaste opération militaire est en cours. Depuis maintenant plusieurs semaines, les relations franco-algériennes sont très dégradées. Une crise diplomatique a éclaté l'été dernier, quand Paris a annoncé soutenir le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Depuis, La brouille s'est amplifiée avec la détention en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, puis l'arrestation en France de plusieurs influenceurs algériens et franco-algériens. Dans ce contexte, Abdelmajid Tebboune accorde un long entretien au quotidien français L'Opinion, interview dans laquelle le président algérien dénonce, je cite, un climat délétère entre Paris et Alger. Pierre Firsion.
Le dialogue politique est interrompu, dit le chef de l'État algérien. Plus rien n'avance, si ce n'est les relations commerciales. Nous perdons du temps avec le président Macron. Et Abdelmajid Tebboune de pointer du doigt, je cite, les déclarations hostiles tous les jours de politique français, ciblées notamment le ministre de l'Intérieur. Tout ce qui est de Retailleau est douteux, compte tenu de ces déclarations hostiles et incendiaires envers notre pays, déclare-t-il, pour justifier l'arrêt de la coopération entre les services algériens et la DGSI, qui est sous la tutelle de Beauvau. Dans cette interview, le président algérien revient sur l'origine de la crise, la reconnaissance par la France du plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. « Vous faites une grave erreur, vous n'allez rien gagner et vous allez nous perdre », répond-il en juin à Emmanuel Macron, lorsque ce dernier lui annonce son intention de franchir le pas. Abdelmajid Tebboune estime, je cite, que Boualem Sansal n'est pas un problème algérien, c'est un problème pour ceux qui l'ont créé. Malgré ces critiques, le chef de l'État algérien se dit totalement d'accord pour une reprise du dialogue entre les deux pays. Pour permettre la reprise de cette relation, il est indispensable, selon lui, de régler un contentieux, celui des réparations relatives aux essais nucléaires réalisé par la France en Algérie.
Pierre Firsion, en France, l'heure de vérité pour François Bayrou. C'est aujourd'hui que le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur le vote du budget de l'État et sur celui du budget de la sécurité sociale. Comme Michel Barnier, il y a quelques semaines, François Bayrou s'expose à un vote de censure au Parlement. À gauche, le Bureau national du Parti socialiste a décidé à la quasi-unanimité de s'abstenir de voter la censure. Reste à connaître la position du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, autre clé de la survie du gouvernement Bayrou. Deux blessés par balle cet après-midi dans une gare parisienne, la gare d'Austerlitz. Un équipage de la police ferroviaire a blessé deux personnes, dont une qui taguait une croix gammée et qui a sorti une arme. Le parvis de cette gare d'Austerlitz est entièrement fermé au public actuellement. Près de 8 mois après les élections législatives, la Belgique a enfin un Premier ministre. Bart De Wever, chef des conservateurs flamands, il a prêté serment devant le roi Philippe avec ses 14 ministre. À 54 ans, il devient le premier indépendantiste flamand à prendre la tête du gouvernement fédéral en Belgique, un gouvernement qui penche un peu plus à droite. En Espagne, le début d'un procès très attendu et très médiatisé, celui de Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football. Il a été contraint à la démission après avoir embrassé sur la bouche, sans son consentement, une joueuse de la sélection. Pour cela, il risque 2 années et demie de prison. Plus de précision avec sur place à Madrid, François Musso.
Les faits remontent au 20 août 2023. Ce soir-là, c'est la finale du mondial de football féminin à Sydney, un match emporté par les Espagnols. Sur le podium victorieux, le président de la fédération d'alors, Luis Rubiales, prend la tête de la joueuse Jenny Hermoso à deux mains et l'embrasse sur les lèvres. Cela provoque rapidement une réaction d'indignation entre les joueuses, puis entre les organisations féministes qui lancent sur les réseaux sociaux une campagne intitulée « C'est à Cabo, ça suffit ». Les faits reprochés par l'accusation ne s'arrêtent pas là. D'après plusieurs joueuses qui seront appelées à comparaître, Luis Rubiales aurait continué à harceler la joueuse Jenny Hermoso et dans les semaines suivantes aurait exercé sur elle et son entourage des pressions pour qu'elle ne l'accuse pas d'agression sexuelle. Or, c'est précisément le point sur lequel les magistrats devront se prononcer. Ce baiser non consenti devant les caméras de télévision et le comportement ultérieur de l'ancien président de la fédération constituent-ils en soi une agression sexuelle? Les avocats de la joueuse ont non seulement requis 2 années et demie de prison, mais aussi une amende de 50 000 euros et l'interdiction pour Luis Rubiales de s'approcher physiquement de la joueuse à moins de 500 mètres. François Musso, Madrid, RFI.
Enfin, les Jeux Olympiques d'hiver 2030 en France, ce sera sans Martin Fourcade. Le multiple champion olympique de biathlon annonce qu'il renonce à devenir président du comité d'organisation des Jeux. Dans un courrier adressé aux parties concernées, il évoque, je cite, des désaccords trop nombreux. Donc il ne sera pas aux Jeux d'hiver, ce que Tony Estanguet avait été aux Jeux d'été à Paris. Voilà, il est 16h10 et c'est la fin du journal. L'heure de retrouver le Pont des Arts avec vous, Nathalie Amar. Bonjour.
Bonjour Gilles Moreau et à tout à l'heure sur le Pont des Arts, ça commence dans 30 secondes tout juste.